libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plan d'action du gouvernement sur les logiciels libres, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur l'AMMD, une coopérative d'artistes libres produisant de l'art libre avec des matériels et des logiciels libres. Et également en fin d'émission, la chronique d'Antanac sur le garage numérique qui accompagne les personnes habitantes et les associations du 20e arrondissement de Paris pour une vie numérique inclusive et solidaire. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 décembre 2021, nous diffusons direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice et vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isab, et je te passe la parole plutôt.
Bonjour Fred, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette coopérative d'artistes libres qui s'appelle l'AMMD. Et nous allons le faire grâce à notre invité, Aurèle, qui est normalement au téléphone avec nous. Bonjour Aurèle.
Salut.
Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour commencer, je te propose de nous en dire un peu plus sur l'AMMD. Est-ce que c'est déjà l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps cette association existe et quelle est la mission de cette association?
Oui, alors l'AMMD a été fondée en 2004 en fait, quand on était encore étudiant, à l'époque pour produire un premier album d'un groupe qui s'appelait Seb Cachotte. Et donc Seb Cachotte à cette époque-là jouait du mécanique metal disco, et donc AMMD c'était pour Amical du mécanique metal disco. Voilà, on est bien loin de ça maintenant, mais c'est pas très grave, enfin, historiquement c'est ça. Et on n'a pas vraiment de mission en tant que telle avec l'AMMD, on est plutôt, on va dire, une espèce de lieu des possibles. Donc en gros, tous les artistes qui sont dans la MMD décident de diffuser leur art quel qu'il soit, alors c'est beaucoup des musiciens quand même principalement, sous des licences copyleft, donc licences art libre, Creative Commons, CC BY SA, ce genre de choses, et en utilisant, voire en développant des logiciels libres. Et donc au fur et à mesure, on s'est retrouvé à développer des compétences sur la technique du spectacle avec des logiciels libres, ou la technique du son, ou des choses comme ça, et c'est plutôt un endroit où on peut, un endroit des possibles, quoi. Voilà, on peut faire des choses. On sait qu'on va trouver des gens qui sont raccord avec notre philosophie, et puis voilà, c'est un peu ça l'idée.
Parfait, merci pour cette première présentation. Si j'ai bien compris, tu étais là au moment de la fondation.
Tout à fait, oui, je fais partie. D'accord. Des rares à être encore là.
D'accord, tu connais bien l'historique.
Ouais.
Donc tu disais que la plupart des artistes qui sont membres de l'association. Ah, déjà, une première question. Est-ce qu'il faut être membre pour publier avec l'AMMD?
Alors l'AMMD fait pas vraiment de publication au sens strict, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs fois produit des albums dans le sens où elle a mis en marche les moyens matériels et ou financiers pour le faire, éventuellement la promotion et tout ça, mais finalement c'est quand même, on n'a pas de salarié permanent, et du coup c'est quand même davantage de l'ordre du do it yourself et donc de l'entraide qu'autre chose. Donc en fait il n'y a pas vraiment de production de l'AMMD en tant que telle. Pourquoi j'ai perdu ta question, excuse-moi.
Moi aussi j'ai perdu le fil parce que j'ai enchaîné les questions. Non, j'avais commencé pour te demander quel type d'œuvre vous produisez, et là tu m'as dit tout de suite, et maintenant c'est en fait on peut pas parler vraiment de production, si j'ai bien compris. C'est une façon en fait de rendre visible les œuvres de ces artistes, et après en fonction des projets vous pouvez participer financièrement ou pas, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça. Bah, en fait, alors c'est une association hein, de fait, donc finalement, y a des adhérents. Qui nous rejoignent généralement parce qu'ils nous connaissent. Donc, enfin, ce que je veux dire surtout, en fait, c'est qu'on n'est pas, une société prestataire comme on peut avoir des labels ou des choses comme ça.
Très bien,
on
c'est très clair.
Voilà.
Très clair.
On fait ensemble. Donc là, en ce moment, c'est surtout des musiciens qui sont dans la MMD. Notre dernier non-musicien, c'est un membre de l'April, donc j'imagine qu'il n'est pas innocent dans le fait que vous appeliez maintenant. C'était Luc qui faisait du roman photo, avec lequel on a fait encore un roman photo là, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais voilà, donc en ce moment c'est plutôt des musiciens et puis de la vidéo, mais il y a eu des plasticiens par le passé, etc. Bon, on a quand même un gros cœur de métier autour du spectacle, on va dire.
Et est-ce qu'il faut, je reformule ma question, est-ce qu'il faut être adhérent pour que son œuvre ou son groupe apparaisse sur le site de la MMD? Est-ce que c'est une condition?
Ouais. Alors en fait, je dirais même que c'est différent, c'est plutôt il faut être adhérent et après il va falloir s'occuper du fait que son œuvre apparaisse sur le groupe, puisqu'en fait vraiment il y a personne dans la MMD qui s'occupe réellement des autres, on s'occupe tous ensemble de tout ça quoi. Mais encore une fois, on n'est pas une association de prestation de services, donc on fait pas à la place en fait.
Très bien.
Ça fait un peu partie du discours qu'on tient aussi de dire que en fait bah il n'y a pas de raison particulière que les artistes ou les musiciens ou quoi aient tout un tas de gens qui fassent le boulot un peu sale et un peu relou à leur place quoi. Donc on fait nous-mêmes, on le fait ensemble pour que ça soit un peu moins relou justement, et puis voilà.
Et la logique do it yourself est quelque chose qui est très proche des principes du logiciel libre, de la licence libre en général. Pourquoi le choix de cette licence et pourquoi le choix de la licence copyleft?
Alors le pourquoi, enfin en fait parce que ça correspondait à ce qu'on avait envie de faire à l'époque. Je sais plus exactement comment on est venu à ça. Je me rappelle qu'on était étudiants et a priori que le labo d'université dans lequel on était, pour la plupart d'entre nous, travaillait sous Debian ou des choses comme ça. Donc du coup on était déjà dans l'univers du libre. Honnêtement je me rappelle pas comment on en est arrivé à ça, mais depuis en tout cas qu'on s'est dit qu'on allait faire les choses sous licence copyleft, on a tout fait sous licence copyleft depuis l'art jusqu'au développement logiciel, et où les quelques on va dire matériels qu'on a pu faire, qui sont quand même, pour le coup, on n'est pas des gros fabricants quoi, de ce côté.
On va rappeler, je m'excuse auprès de notre public, on va rappeler ce que c'est une licence libre appliquée par exemple à une musique, et en quoi et pourquoi il y a cette clause copyleft en plus.
Ouais, alors du coup la licence copyleft pour la musique, ça va être...
Et licence libre déjà pour commencer, appliquée à la musique.
Et ouais, alors licence libre, ça va être libre utilisation, donc on peut l'utiliser dans le cadre familial, le cadre privé, le cadre pas privé du tout, enfin voilà, on peut la diffuser a priori partout, on peut la copier.
Dans un cadre commercial aussi.
Alors c'est là que, si tu me dis libre, la question c'est un peu où est-ce que tu mets la limite. Donc nous en tout cas à la MMD, oui tu peux le faire dans un cadre commercial, puisqu'on a choisi un principe copyleft. Donc il n'y a aucune restriction, ni commerciale, ni de dire tu n'as pas le droit de modifier. Donc voilà, c'est les deux autres libertés qu'on donne, c'est tout usage, et tu as le droit de faire des modifications et tu as le droit de rediffuser ces modifications.
Et copyleft dans le sens que la personne qui réutilise, la structure qui réutilise cette musique, elle est censée la rediffuser sous les mêmes conditions.
Exactement, voilà c'est ça, il y a la viralité, hein, principe de viralité de la licence. Et nous notre idée par rapport à ça, c'était de dire que finalement, il y a, on va dire, alors je suis pas historien de la musique, mais il y a autour de 300 ans, la musique a commencé à être codifiée via des partitions, etc. On a pu commencer à se poser la question de comment on pouvait protéger, entre guillemets, les droits d'auteur et tout ça. On a donc inventé ce statut de compositeur à ce moment-là. Mais en amont, c'était quelque chose qui était transmis de manière orale. Et il y a encore beaucoup, d'ailleurs, de sociétés où c'est le cas. Et c'était un bien commun, finalement, qu'on partageait et auquel les gens apportaient quelque chose au fur et à mesure. Si on prend l'exemple de la chanson de Roland, il y en a 50 000 versions. Et puis j'imagine qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas parce qu'elles datent d'une époque où on n'enregistrait pas, évidemment. Donc voilà, c'est un peu dans ce truc-là qu'on s'inscrit, de dire en fait, il n'y a pas de raison qu'on ait une propriété particulière là-dessus, les choses existent, elles finissent par passer, on existe dans un contexte qui était là, qui nous a inspirés, et on ne peut pas l'ignorer, et puis voilà quoi, ça nous semble tout à fait normal en fait que tout ça soit de l'ordre du bien commun quoi.
Merci de rappeler ça. D'ailleurs tu parlais, j'introduis un autre point, les artistes qui produisent leurs œuvres et qui font partie de la MMD, j'imagine qu'ils ne sont pas déclarés à la SACEM, qui est la société, je me suis dit, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Je sais que maintenant il est possible pour un artiste qui est membre de la SACEM de diffuser s'il veut sa musique sous licence libre de diffusion, mais pas libre complètement parce que la clause commerciale n'est pas acceptée. Donc j'imagine que ça aussi c'est quelque chose je veux dire, les artistes effectivement qui font partie de l'MD, ils publient uniquement sous licence libre, donc voilà, ils n'ont aucune intention de faire partie ou de déposer certains œuvres auprès de la SACEM.
Non, alors en plus historiquement quand on a commencé la MMD, la SACEM était nettement plus stricte qu'elle ne l'est maintenant. Elle a été un peu obligée de changer son fusil d'épaule avec le développement du net, mais à l'époque, il était hors de question de faire quoi que ce soit avec la musique qui était labellisée SACEM, et donc on l'a toujours vu comme plutôt une entité qui était, on va dire, hostile à ce qu'on faisait, ou en tout cas nous on était hostile à ce qu'ils faisaient. effectivement personne à la MMD n'est adhérent à la SACEM, et en fait, alors comme je te disais tout à l'heure, la MMD elle est beaucoup basée autour du spectacle, y compris pour les musiciens. Et parce que la question qui revient souvent, c'est dans ces cas-là, c'est quoi la forme de modèle économique qui permet de vivre, et en fait nous finalement c'est à travers le spectacle qu'on vit, c'est-à-dire que finalement la composition, tout ça, c'est presque un... Pardon, je viens de voir le chat. La composition, c'est presque un acte anecdotique qui va nous amener à faire un spectacle. Ce spectacle, on va pouvoir le vendre derrière, on va être déclaré salarié, etc., intermittent du spectacle, et c'est ça notre modèle qui va nous permettre de vivre. C'est pas le fait d'avoir composé une fois quelque chose qui va nous assurer une rentabilité.
Donc il y a des artistes qui quand même arrivent à vivre des artistes de la MND qui arrivent à vivre de leurs œuvres.
Oui, on est plusieurs. Pour autant, on peut pas dire qu'on est salarié de la MMD parce que ça n'aurait pas de sens. En fait, on est intermittent du spectacle, donc on est salarié quand on fait des spectacles. Il y a un certain nombre de spectacles qu'on fait grâce à la MMD, d'autres où c'est pas le cas. Et puis, on arrive à vivre, mais c'est aussi parce qu'il y a ce statut d'intermittent quand même qui nous permet ça, quoi.
C'est pas le cas pour tous les groupes. On a interviewé par le passé le groupe Stone from the Sky qui expliquait que les membres de ce groupe, pour le coup, ils avaient un travail à côté et qu'ils utilisaient leur temps libre, leur congé pour faire de la musique, et donc qui était leur passion. Mais ça me fait vraiment très plaisir de savoir qu'il y a des artistes qui arrivent à vivre de leurs œuvres libres grâce aussi au statut d'intermittent. J'ai vu que sur votre site, on me dit que le temps est terminé. Est-ce que tu veux lancer un message, par exemple? Est-ce que vous sélectionnez les membres qui demandent à participer à la MMD?
Alors, on les sélectionne, oui et non. C'est plutôt, en fait, vu qu'on peut pas décevoir les gens, on les rencontre, on discute et puis on voit ce qu'on fait ensemble. Mais encore une fois, la MMD, c'est vraiment pas un talisman ni quelque chose qui ouvre une porte. C'est avant tout, en fait, c'est pour ça qu'on s'est appelé coopérative ou collectif, c'est avant tout un truc où on fait les choses ensemble. Et donc il n'y a pas d'idée de, comment dire, de candidature ou quoi que ce soit, quoi. C'est plutôt on se retrouve et si les choses doivent se faire, elles se feront. Et voilà, on veut pas vendre du rêve qui n'existerait pas, quoi.
C'est très clair. Je te remercie beaucoup pour ta participation. On a mis les références du site LIMD sur notre site libreavoue.org, ainsi que les pages des sites des groupes qui sont actuellement à l'AMMD. Donc n'hésitez pas à les voir et les écouter surtout. Mais merci encore et très très bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci Isa, merci Aurel. Le site de l'AMMD, c'est amd.net. Et nous allons faire une pause musicale et on va pas quitter totalement la MMMD. Alors, en effet, nous allons écouter un groupe qui fait partie de la coopérative. Nous allons écouter le groupe Plagia. Le titre, alors attention. J'ai acheté un agneau gastrix chez Wish & Lidl Part 3, le clash des coachs buccales, avec vin rouge, donc par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute des Causes Communes, la voix des possibles.
Causes Communes, 93.1.
Allez, viens vous faire foutre. Ouais. C'est nous les bagarreurs. Je suis avec mon ami. À vous.
Merci Isa. Nous venons d'écouter J'ai acheté un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 3, le clash des coachs buccal avec plagiat et vin rouge disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors j'ai un petit quiz sur ce jingle, le musical. Il y a deux changements par rapport au jingle habituel. Si vous trouvez ces deux changements, je ne sais pas ce que vous gagnerez, mais on trouvera bien. Pour cela, vous donnez la réponse sur le salon web de la radio, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et en attendant, on va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous allons parler aujourd'hui du plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres et communs numériques dans l'administration. Alors si on est encore loin d'une priorité effective au logiciel libre, qui doit être la ligne de mire de toute politique publique ambitieuse sur le sujet, le plan d'action pose des bases encourageantes pour une administration tournée vers les logiciels libres et les communautés qui les font vivre. Comme nous le disions dans le titre de notre communauté de presse de réaction, le gouvernement avance à son rythme. On va parler de tout ça. Nos invités, Sabine Guillaume, chef de la mission Label du programme TechGouv, conduit par la direction interministériel du numérique, la DINUM. Bonjour Sabine.
Bonjour Frédéric.
Et Bastien Guéry, chef du pôle logiciel libre au département Etalab de la DINUM. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Alors évidemment, Mission Label, TechGouv, DINUM, Etalab, nos invités vont bien sûr expliquer tous ces termes en cours de l'émission. Alors vous n'hésitez pas à participer à cette conversation, soit en posant des questions, soit en réagissant sur le salon web dédié à l'émission. Donc je rappelle le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou directement sur le site libreavoue.org. Alors on va commencer par une petite présentation personnelle, ce qui permettra un petit peu d'éclaircir qui vous êtes et ce que vous faites. Donc on va commencer par Sabine Guillaume.
Oui, alors je suis Sabine Guillaume, comme elle vient d'être précisé. Je suis chef de mission Label au sein du programme TechGouv de la direction interministérielle du numérique. À ce titre, je porte une mission qui globalement traite de qualité logicielle à destination des acteurs publics, administration centrale, collectivités territoriales, etc. Et cette mission a une patte sur le logiciel libre au travers du plan d'action logiciel libre qui est porté, lui, par Bastien. Belle transition.
Alors la grosse patte du logiciel libre, donc c'est Bastien ou Bastien Guéry.
Oui, donc moi je suis chef de pôle le logiciel libre à Etalab. Pour donner des ordres de grandeur, Etalab, on est une quarantaine de personnes. C'est historiquement la mission d'ouverture des données publiques. Et à Etalab, depuis 3 ans, je me consacre au logiciel libre dans toutes ses dimensions, à savoir aider les administrations à publier les codes sources des logiciels qu'elles achètent ou qu'elles font elles-mêmes, les aider à mettre en œuvre l'article 16 de la loi Lemaire qui demande d'encourager le logiciel libre. Donc c'est pas la priorité qui était évoquée en préambule, mais c'est un encouragement inscrit dans la loi. Donc on met en œuvre cet encouragement en fournissant un catalogue de solutions libres et en aidant les administrations à s'en emparer. Et depuis peu, mon travail s'est prolongé au travers du pôle logiciel libre qui va nous permettre d'être plus nombreux et d'aller plus loin, plus vite, plus fort.
Ça, C'est un beau slogan à quelques mois des Jeux Olympiques. Alors on va effectivement parler de tout ça. Et puis bah, Bastien ne dit pas qu'aussi c'est un libriste de longue date. Et c'est pas le seul libriste qui est présent dans l'administration aujourd'hui. Et ça fait du bien. Alors justement, on va commencer par un petit rappel sur l'historique. Alors récent, je vais citer quelques jalons et je vous demanderai un petit peu de réagir. Tu as commencé un petit peu. On va pas revenir dans les années 2000 hein, parce que l'histoire du libre dans les administrations c'est quand même assez loin. Mais on va revenir simplement 10 ans en arrière parce qu'on est bientôt en 2022. Donc quelques marqueurs. Et je précise tout de suite que toutes les références sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Donc vous avez juste besoin de noter ce site et vous trouverez tous les liens. Alors en 2012, il y a la circulaire Hérault du nom du Premier ministre de l'époque sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. C'est un document qui envoie un signal fort car il est signé par le Premier ministre et il propose des pistes intéressantes sur le bon usage. Mais comme on l'a dit en introduction, il n'y a pas de priorité au logiciel libre. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier signal fort, 2012, circulaire Hérault. En 2016, tu l'as dit Bastien, il y a la loi pour une république numérique portée par Axel Le Maire, dont l'article 16, comme tu l'as dit, prévoit que les administrations encouragent à l'usage l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement ou de l'achat ou de l'utilisation de systèmes d'information. Alors c'est une disposition dont on considère nous qu'elle est dénuée de portée normative et dont on peut douter un petit peu de l'effet, mais on va en discuter tout à l'heure. Et à l'époque on s'était mobilisé à la fois dans le cadre de la consultation et dans le cadre du projet de loi. Donc ça c'est 2016, loi pour une république numérique. On va revenir plus récemment, il y a un an, le rapport du député Éric Botorel, qui était également accompagné d'une consultation publique et d'auditions auxquelles nous avons participé. Et ce rapport, très intéressant, abordait beaucoup de sujets, et il préconisait notamment l'utilisation, de développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions. Je cite le rapport. Avec notamment le besoin, selon le rapport, d'impulser la politique logiciel libre au niveau ministériel, avoir des moyens humains, voire même de créer une agence ou mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution au logiciel libre. Ce qui faisait partie aussi de nos suggestions. Donc rapport très intéressant, nous avons reçu Éric Botorel dans Libre à vous émission 90, donc libreavoue.org/90. Plus récemment encore, en avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botorel, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Donc la circulaire précise que l'ambition de la politique publique implique un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que de l'usage de logiciels libres et ouverts. Bon, une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant, la circulaire Hérault. Ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas toutefois au simple affichage de cette ambition. Elle reprend une des principales propositions du rapport Botorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et la promotion interministérielle en matière de logiciel libre et de commun numérique. On va voir tout à l'heure si ça a donné des effets. Encore plus récemment, donc juillet 2021, le rapport du député Philippe Latombe, dans le cadre de la mission d'information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Alors lui, le député Latombe, il va encore plus loin. Lui, il préconise clairement d'imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Bon, une prise de position qu'évidemment l'April a saluée. On a reçu Philippe Latombe dans l'émission 113 de Libre à vous, donc libreavoue.org/113. Et enfin, on finit par les annonces récentes de la ministre Amélie de Montchalin, donc ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, en novembre 2021, au salon Open Source Experience, où elle était présente. Donc pas de priorité au logiciel libre, mais le gouvernement semble vouloir inscrire l'État comme utilisateur et contributeur de logiciels libres, un renforcement des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, donc on va sans doute en parler, l'ouverture de portails, dont on va parler tout à l'heure, et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre à la création d'un conseil d'expertise qui réunirait administration et représentants de cet écosystème. Donc ça c'est un petit peu voilà des dates, et je rajoutais juste, et je vais finir là, je précise que l'essoufflement a fait une certaine fatigue et au port du masque, mais pendant ce temps-là, je rappellerai simplement que certains ministères restent toujours embrigadés et prisonniers de solutions privatrices de Microsoft, notamment à travers les accords Open Bar Microsoft Défense, Open Bar Éducation Nationale Défense, et d'autres secteurs évidemment sont aussi concernés. Alors par rapport à cette historique plus ou moins récente d'une dizaine d'années, qu'est-ce qui a évolué vraiment? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la circulaire Hérault de 2012, qu'est-ce qui a évolué de façon positive? Bastien Carrie, déjà.
Alors, il y a des évolutions claires. L'historique, moi, je le ferais remonter, même pour la préhistoire, au sénateur Lafitte, qui en 99
ouais,
lance cette idée audacieuse d'obligation légale. Et par rapport à la circulaire Hérault, je remonterai même 6 ans en arrière, au moment où les ministères, par eux-mêmes, se saisissent du logiciel libre, envisagent du côté des impôts l'installation de LibreOffice, par exemple, et constituent un groupe d'échange technique sur le sujet. Ça, ce sont les groupes de mutualisation interministérielle des logiciels libres. Donc on a une expertise technique qui se construit et qui prépare l'idée qui sera celle de la circulaire Hérault, qui est entièrement dédiée au libre et qui dit le libre c'est fiable, allez-y, on a besoin de repères et on a besoin que les administrations centrales, ça vise les administrations centrales, se coordonnent pour savoir quel logiciel utiliser parce que ça foisonne et il faut des repères.
J'ai juste une petite précision, tu m'y fais penser. 2006, c'est aussi, si je me souviens bien, la date à laquelle le ministère de la Défense avait une directive interne qui encourageait très fortement à l'utilisation du logiciel libre, ce qui ne les a pas empêchés, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, de signer un accord open bar Microsoft de Défense. Bon, on sait bien qu'en France, il s'est passé quelque chose en 2007 avec l'élection notamment d'un certain président de la République qui a eu ensuite un effet négatif. Mais je te laisse poursuivre.
C'est important de toujours préciser ça parce que si on a le temps, on reviendra un peu dans la complexité ouais, de ce que c'est que l'informatique de l'État, où il y a à la fois ce qui se passe sur le poste des agents, ce qui se passe dans les ordinateurs des infrastructures, ce qui est développé à l'intérieur des applications. Mais donc 99, Lafitte, 2006, une mobilisation des experts techniques au sein d'une administration clé qui est Bercy, et qui rend possible cette circulaire. Je fais cette parenthèse, pourquoi ? Parce que la circulaire du Premier ministre Jean Castex du 27 avril 2021, elle est là aussi possible parce que on a continué cette mobilisation et parce que on a continué le travail de coordination via la DINZIC puis DINUM sur les efforts autour du libre dans l'administration. C'est-à-dire que le Premier ministre ne signe pas une page blanche, il repart de quelque part. Donc cette continuité, elle est logique et elle est attendue. L'aspect qui me paraît nouveau, pour venir directement à ça, pour ceux qui ont connu les combats autour du logiciel libre dans les années 2000, on en était à former nos députés. On en était à acculturer le monde politique à tous ces sujets-là. Aujourd'hui, ces députés, Éric Botorel, Philippe Latombe, sont tous bien au fait de ces sujets. Parfois même, ils sont techniquement compétents en la matière. Et donc, je pense que c'est une chance d'avoir ces héritiers de Michel Rocard, qui s'était lui formé de façon accélérée dans les années 2000 pour porter le combat contre les brevets logiciels en Europe. Donc ça, c'est nouveau. On a un contexte politique avec des gens qui savent de quoi ils parlent.
Juste petite précision, tu viens de parler de brevets logiciels Michel Rocard. Philippe Latombe vient de co-signer une tribune pour rappeler le danger des brevets logiciels, donc c'est juste pour confirmer ce que tu dis effectivement.
Oui, j'allais en parler. D'accord, parce que c'est okay. Effectivement pour dire que ces combats ils sont d'actualité, on a une maturité nouvelle des gens qui politiquement portent ces sujets au Parlement et au gouvernement. Le plan d'action logiciel libre et commun numérique, c'est une volonté de la ministre Amélie de Montchalin qui sait de quoi elle parle quand elle avance sur ce sujet. Sur le plan opérationnel, les nouveautés, il y en a une première qui est que la DINUM quadruple les efforts en termes de moyens humains. On passe de 1 personne à 4 personnes, donc on a une augmentation de 400%. Ça paraît dérisoire dit comme ça, mais enfin ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe qui se mobilise, et 4 personnes, c'est en phase avec les recommandations du rapport Botorel sur la constitution d'une mission. La deuxième, c'est que on clarifie avec Sabine Guillaume, ma collègue, l'articulation entre le catalogue des logiciels libres recommandés à toutes les administrations et l'offre des éditeurs qui viennent sur le catalogue GovTech évoquer leurs solutions, libres ou non libres. Mais on a cette complémentarité nouvelle, et comparé à il y a 5 ans, aujourd'hui toute l'administration, qui est encore une fois très riche, concentrée, déconcentrée, centrale et centralisée, a des informations beaucoup plus riches qu'elle n'avait auparavant pour pouvoir éclairer ses choix en interne. Et je rappelle ce principe très simple et très important, on n'est pas sous Louis XIV avec un intendant qui décide pour toute l'administration de façon ruisselante et tyrannique. On a des administrations, un principe de subsidiarité où les administrations sont autonomes dans leur choix, et ce n'est pas la DINUM, qui est une petite administration interministérielle de 140 personnes, qui fait les choix de chaque ministère en termes d'équipement des agents. Faut le rappeler parce qu'on y met...
Oui, parce que souvent on dit, en raccourci, que c'est la DSI de l'État, donc la Direction des Informations de l'État, c'est pas du tout ça en fait. Hein.
Si, c'est la DSI, enfin, c'est la DSI de l'État, mais qui a un rôle d'accompagnement, voilà. D'information. Le seul rôle de contrôle qu'elle a, c'est pour les projets qui dépassent les 9 millions d'euros. Et donc pour tout le reste, cet accompagnement, il est né autour des logiciels libres à la fin du mandat d'Henri Verdier.
Quel ancien responsable de la DINUM.
Voilà, de la DINZIC à l'époque. Et puis il a été prolongé sous le mandat de Nadi Bouhanna. Mais donc les nouveautés, c'est plus de gens. C'est plus de coordination sur l'offre pour la simplifier, l'éclairer. C'est ce conseil d'expertise et de mobilisation.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, logiciel libre qui a, et c'est très important pour nous, on a entendu le message passé pendant la consultation publique du rapport Botorel. Il nous faut des canaux de discussion et de collaboration avec l'écosystème. On a cette chance en France d'avoir un écosystème de petites et moyennes entreprises, voire de grandes entreprises qui est vraiment très actif sur le sujet. C'est une richesse, il faut qu'on discute avec eux. Ensuite, nous ne sommes représentants, nous ne sommes une administration que du ministère de la transformation et de la fonction publique, et on ne fait pas la politique industrielle de la France.
D'accord. Je précise avant juste de passer la parole à Sabine Guillaume pour la même question, enfin que je vois bien les questions qu'il y a sur le salon web Marie-Odile et que je vais les relayer quand elles seront, quand on sera sur le timing de ces questions-là. Et effectivement, Marie-Odile précise qu'il y a aussi Paula Forteza dans les parlementaires compétentes sur le sujet. Paula Forteza qui est une ancienne d'ailleurs d'État là-bas. Donc Sabine Guillaume, même réaction sur un petit peu cette historique, qu'est-ce qui a changé, et puis peut-être sur l'articulation dont vous venez de parler de Bastien entre les différents pôles de la DINUM.
Alors, pour répondre sur le premier point qui est la diffusion du libre, qui est beaucoup plus importante que précédemment dans tous les messages que pouvait porter l'administration, je pense que le catalogue GouvTech est en ce sens-là un totem que je pense assez important à la suite du CIL. L'idée de ce catalogue, c'est de proposer aux acteurs publics qui ont un choix de solutions à faire, de présenter sur un même plan des solutions libres et des solutions dites propriétaires. L'acte d'achat restant à la charge du porteur de projet, qui lui passe sa commande publique ou est en capacité d'intégrer une solution libre sur ses propres équipements et d'avoir l'équipe de développeurs en interne qui prend le sujet en charge, voire faire appel à un intégrateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, alors j'ai pas le compte d'aujourd'hui, mais on n'est pas tout à fait à 600 solutions, mais presque, et on atteint à peu près 10% de solutions qui relèvent de licences libres, qui ont été validées avec le concours de Bastien. Certaines de ces solutions sont référencées dans le CIL, d'autres pas. Et on a, comme disait Bastien, un lien entre les deux, puisqu'on dit de l'un qu'il est dans l'autre et de l'autre qu'il est dans l'un. Voilà. Donc, je pense que cette présentation faciale, sans faire de différence entre les solutions propriétaires et libres, c'est déjà un pas de présentation. Et on se rend compte que les solutions qui sont référencées ou avec les échanges qu'on peut avoir, il n'y a pas de différence potentiellement de qualité ou de compétences, de choses entre l'une et l'autre. Et je pense que passer au-delà de peut-être certaines réserves qu'on pourrait avoir ou a priori sur des solutions libres, ça fait partie des outils qui permettent de gommer ces différences-là et pouvoir évaluer des solutions propriétaires libres suivant des critères qui sont peut-être autres, quoi.
D'accord. Alors, par rapport, vous avez dit le CIL, on va rappeler que le CIL, c'est le socle interministériel de logiciel libre, c'est ce fameux catalogue dont parlait tout à l'heure Bastien. Oui. Et pour être un peu taquin, Sabine Guillaume, donc visiblement aujourd'hui, par rapport à la première version du catalogue GouvTech, quand il est sorti, en fait, il y avait des gens qui avaient, parce que c'était autodéclaratif, qui avaient dit c'est du libre avec telle et telle essence. On avait un peu taquiné en faisant une communication en disant qu'une bonne partie n'était pas du tout du logiciel libre. Donc maintenant, si je comprends bien, il y a une collaboration entre donc la mission label et le pôle logiciel libre pour vérifier que les déclarations des entreprises ou des structures structures en tout cas qui proposent des solutions libres soient réellement libres. C'est bien ça?
Exactement. Alors, on est dans un mode, enfin la DINU, mais souvent dans un mode apprenant. Donc effectivement, on a lancé la première initiative sans véritablement, comment dirais-je, mettre en question ce qui relevait de l'auto-référencement. Donc effectivement, il y a eu quelques discussions et quelques remarques que nous avons, je pense, prises en compte le plus rapidement possible. Et maintenant, on travaille vraiment avec Bastien. Donc on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'une licence libre et qu'est-ce que n'est pas une licence libre. Donc on a le contrôle en amont qui est calé, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et lorsqu'on a un cas un peu litigieux ou sur lequel on se pose des questions, c'est Bastien qui est notre grand sachant en la matière. Voilà. Ah, il en faut un. Je suis désolée, Bastien, mais c'est toi. Donc voilà, c'est comme ça.
On verra sur cette question justement des licences libres, mais très rapidement. Ouais. Donc là, on a fait tout à l'heure le retour rapide de l'historique. Le point essentiel récemment, c'est les annonces de la ministre de Montchalin, donc la ministre de la fonction publique et de la transformation et de la fonction publique. Mais j'ai envie d'être un peu, bon, pas taquin, mais vous poser les questions que la plupart des gens se sont posées quand ils ont entendu ces annonces. C'est la question de la confiance accordée à ces annonces, notamment par rapport à un historique. Alors j'ai pris quelques points de l'historique. Alors bon, il se trouve que quand j'avais pris le point de l'historique, il était encore, enfin d'ailleurs, il est encore toujours le patron de la DINU, Manadi Bouana. Donc sa prise de poste en décembre 2018, ensuite en mars 2019 dans une interview, il qualifiait le livre de question du début des années 2000, on en parlait tout à l'heure, mais dans son esprit c'était plutôt quelque chose de négatif. On a parlé effectivement de le catalogue GouvTech de la première version qui était un petit peu problématique. On peut aussi se dire que des annonces faites à même pas 6 mois d'une présidentielle, donc d'un nouveau gouvernement, même si président reste, souvent il y a quand même un nouveau gouvernement, avec potentiellement un poste la responsable de lui-même qui est hautement politique et qui est soumis au changement politique. Tout à l'heure tu parlais d'Henri Verdier a été, on va dire quoi, exfiltré de son poste parce qu'en fait sa tête ne revenait pas au nouveau ministre de l'économie numérique de l'époque, c'est-à-dire Mounir Majoubi. Et en parallèle, il y a aussi toujours la persistance des solutions open bar dans certains ministères, donc de la forte dépendance de ces ministères à Microsoft. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire pourquoi on devrait y croire ce coup-ci. Bastien, Guéry.
Rendez-vous dans 3 ans.
Pourquoi 3 ans?
Rendez-vous dans 3 ans, c'est parce que non, il y a une raison, c'est que c'est la durée sur laquelle on a observé les effets de la circulaire Hérault. Donc il y a eu une étude de la Harvard Business School qui a montré que cet encouragement, cette circulaire, qui était juste une circulaire, c'était pas une nouvelle loi, elle avait eu des effets sur la commande publique et sur la stimulation des entreprises.
On mettra le lien sur le site web de la
l'émission. Oui, avec plaisir, c'est une étude intéressante et elle montre aussi, à contrario, que la loi pour une république numérique qui d'un coup fait des avancées légales sur le logiciel libre n'a pas l'air, elle, d'avoir des effets directement mesurable économiquement pour les entreprises.
Ça, c'est pas besoin d'une étude pour savoir qu'un truc qui est juste encouragement ne sert à rien dans une loi. Donc, nous sommes d'accord là-dessus, je pense.
Ouais. Donc, pourquoi il faut avoir confiance? Moi, je suis arrivé sur mon mandat, entre guillemets, il y a 3 ans, de ma fonction de développeur qui soutient le libre, avec un engagement clair qui était de rester et de continuer, parce que les administrations avaient vu trop d'interlocuteurs différents, hein, souvent des gens compétents. Je peux citer mon collègue Antoine Cao, qui accompagnait toutes les administrations avec les groupes de mutualisation interministérielle, groupe qui fonctionne aussi indépendamment de la DINUM, hein, et qui échange des expertises. Il y a notamment le pôle logiciel libre de l'éducation nationale qui fait un gros travail d'animation autour de ces groupes-là. Et donc la continuité que vous décriviez, qui fait qu'on se demande ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi celle qui est garante de on continue, on est confiant et on va construire des indicateurs d'impact pour qu'on puisse se donner rendez-vous encore une fois et dire ça a avancé, ça fonctionne. Ce qu'on voit nous, c'est qu'on a de plus en plus de demandes des administrations qui viennent vers le catalogue de Sabine, le CIL, avec des demandes concrètes d'accompagnement pour mieux utiliser et faire des choix plus éclairés. Les deux ennemis, je pense, dans les choix techniques, c'est les préférences personnelles. C'est quand quelqu'un très haut, un secrétaire général qui a connu une solution de courrier de messagerie, par exemple, pour ne pas le citer, va dire, ben moi je connais ça, j'ai besoin de ça, je mets ça sur, dans tous mes agents, et là il y a un arbitraire ressenti qui fait que le critère du libre passe à la trappe. Le deuxième ennemi, c'est l'arbitraire de choix techniques trop abstraits et qui sont pas validés par les DSI, par les équipes, et qui fonctionnent pas bien. Et on aurait le risque du même arbitraire avec une obligation légale qui serait prématurée. Pour moi, cette obligation légale du logiciel libre...
Tantôt, elle est prématurée, c'est ça ?
Aujourd'hui, elle serait prématurée. D'accord. Je pense que c'est une idée régulatrice. C'est un horizon qu'il faut viser pour construire la méthode qui permettrait de faire des choix éclairés dans les administrations. On a nos voisins italiens qui ont cette obligation légale. Et
depuis 2016, non, je crois ?
Depuis plus longtemps que ça, je crois. Et en tout cas, eux-mêmes observent que ça n'aide pas. Ce qu'il faut, c'est des interlocuteurs.
2013, on m'a dit sur le salon web.
Je crois que c'est 2013 aussi.
Et donc, on a besoin d'interlocuteurs et de méthodes. Aujourd'hui, le CIL, le catalogue, est très perfectible à tout point de vue. On veut avoir plus d'infos qualitatives sur qu'est-ce qui est utilisé où. On veut avoir plus d'échanges d'expertise. On doit acculturer sur les achats, sur les questions juridiques.
On va en parler tout à l'heure de la commande publique.
Exactement.
Point essentiel.
On a fait un atelier récemment avec la mission d'appui au patrimoine immatériel de l'État qui est rattachée à la direction des affaires juridiques de Bercy. Et c'est très important pour tout le monde de savoir. On a un contexte juridique très favorable.
Je rigole parce qu'il y a une question de Marie Odile sur son web que je vais relayer.
Allez-y.
Je comprends bien. Ceci dit, j'avais... ma question va me revenir, mais en fait, Marie Odile sur le salon dit c'est prématuré parce que comme disent certains, il faut attendre que certains décideurs partent en retraite. Est-ce que c'est un peu ça? C'est une question de génération?
Non.
Sabine
Nanquillon? Non, alors, enfin, moi j'étais précédemment DSI. Non, je rejoins Bastien sur pourquoi il y a des endroits où le libre a toute sa place et puis des endroits où c'est plus compliqué. Il y a les habitudes des utilisateurs aussi, c'est assez compliqué de supprimer la suite Office, voilà, c'est tout le monde a des habitudes, des choses comme ça, donc c'est très compliqué. Donc on a déjà les utilisateurs qui parfois font de la résistance. On peut avoir aussi des réseaux de décideurs qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vont plutôt orienter vers du propriétaire ou vers pourquoi pas du cloud ou du pas cloud pour de très bonnes raisons, voilà, qui sont en capacité d'expliquer. C'est compliqué de peut-être dans certains endroits de choisir une stratégie libre, full libre. Voilà. C'est assez compliqué parce que, en plus, je pense que Bastien va évoquer la difficulté de recruter des compétences. Risque d'être un frein pour le déploiement du libre qui demande des compétences en interne sur un volume d'ETP, un volume d'agents.
D'agents à temps complet
pour s'occuper d'un parc logiciel qui va demander plus d'attention que si effectivement on a un prestataire qu'on paye X tous les mois et qui va venir 4 fois par jour gérer les tickets de bug, par exemple.
D'accord.
Donc le choix, on peut être extrêmement persuadé de l'utilité et du bien fondé du libre, mais on peut être pris dans un contexte où au moment de l'acte d'achat, on intègre d'autres éléments qui font que le livre va pas forcément être choisi, alors même qu'on sait que c'est iso fonctionnel au reste, quoi.
Voilà. D'accord. Alors, vu la pause musicale, tu voulais intervenir, Bastien?
Oui, juste par rapport à la citation de Nadie Buona qui a été faite tout à l'heure. D'abord, on peut pas ne pas constater que le contexte n'est plus le même depuis les années 2000 et que le cloud est arrivé et que ça pose les questions différemment, y compris sur le logiciel libre, sur la liberté des utilisateurs quand ils sont de plus en plus usagers du cloud et l'administration est de plus en plus encouragée à utiliser le cloud. Sur la remarque plus générale, général, on avait Henri Verdier qui était favorable au libre dans l'esprit, qui diffusait cet esprit-là, et Nadi Bouhanna qui avait une position très clairement pragmatique, position pragmatique qui relaie la position naturelle de la plupart des DSI des grands ministères qui sont face à des enjeux de plusieurs milliers de d'ordinateurs, de services, des grandes infrastructures. Donc ce balancier naturel entre idéalisme et pragmatisme, d'abord il n'est pas étranger aux gens du logiciel libre, on le connaît bien, et en plus je pense que il est porteur de il est la preuve que les plans successifs tracent une continuité qui résiste à cette dialectique. Tantôt on est encouragé par des principes de souveraineté, par des principes qui sont des causes de partage, de transparence citoyenne ou autre. Tantôt, eh bien, on passe l'épreuve du pragmatisme en montrant que les logiciels libres souvent sont meilleurs, remplissent mieux les fonctions, et c'est en avançant de cette façon-là qu'on obtient les moyens de faire plus. Parce que si on partait dans des ambitions démesurées, on échouerait et on n'aurait pas les moyens de continuer. Donc aujourd'hui, avoir les moyens de faire de la conduite de changement sur du traitement de texte libre dans des grandes administrations, on ne l'aura que si on fait les preuves que le pragmatisme est compatible avec la démarche.
Ben écoute, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la gendarmerie nationale, qui a pris son temps pour migrer, mais qui l'a fait proprement, sera aussi d'accord. On va faire une petite pause musicale. Alors, la pause musicale a été choisie par Bastien. J'en le remercie. On va écouter Last Dance par le Zero Project. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
D'écouter Last Dance par Zero Project, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors je vous rappelle que toujours, il y a la question de savoir quels sont les deux petits changements qu'il y a dans ce jingle. Venez en discuter avec nous, proposez votre réponse sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, et aussi poser des questions et réagir à notre échange sur le plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres avec Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Alors juste avant la pause musicale, on a parlé un petit peu de l'historique, de la confiance qu'on pouvait accorder aux annonces du gouvernement. On va parler un petit peu du plan d'action en pratique. Alors il y a beaucoup de choses dans le plan d'action. On a commencé un petit peu en parler avec le socle interministériel de logiciels libres. On va parler tout à l'heure de la partie commande publique qui me paraît très importante, mais peut-être que je vais commencer plus simplement par vous demander qu'est-ce qui vous paraît le plus essentiel, chacun et chacune, dans ce plan d'action. Alors on va commencer par Bastien et ensuite Sabine.
Le plan d'action, c'est trois objectifs. C'est mieux utiliser, publier les codes sources et attirer les talents dans l'administration. Sans que ce soit le plus important, je pense que... Et ces trois objectifs sont portés conjointement par différentes missions de la direction interministérielle. L'ouverture des codes sources est naturellement portée par Etalab à travers le pôle logiciel libre, qui est Etalab qui a la mission d'ouverture sur les données publiques. L'utilisation rentre dans le cadre de la mission Label dirigée par Sabine, et le fait d'attirer des talents est l'objet d'une autre mission à part entière qui s'appelle talent, justement, très simplement. Donc ça, il y a vraiment un effort collectif. Et pour moi, il y a cette nouveauté quand même, depuis quelques années, de prendre le taureau par les cornes sur comment attirer des data scientists, des développeuses, des développeurs, des designers dans l'État. On a des programmes innovants comme l'incubateur des services numériques Betagouf, qui recrute en indépendant et en contractuel de nombreux développeuses, développeurs depuis longtemps. C'est un écosystème de plus de 500 personnes aujourd'hui. On a le programme entrepreneur d'intérêt général. Nous-mêmes, côté plan d'action logiciel libre, on lance le Blue Hat Semester of Code.
C'est que Blue Hat,
Blue Hat, c'est le symbole, le chapeau bleu qu'on porte pour réunir les gens qui s'intéressent au logiciel libre dans l'administration, qu'ils soient simples citoyens ou agents publics. Le Semester of Code, donc le semestre de code, c'est l'idée de permettre à des projets libres qui sont utilisés dans l'administration, donc Thunderbird, Peertube, des projets existants à l'extérieur de l'administration, de bénéficier de l'effort d'étudiants stagiaires pendant 6 mois de contribution de ces étudiants, et la DINUM est un accompagnement pour que ces étudiants découvrent à la fois le logiciel libre, ce que c'est que de contribuer, parce que c'est pas évident, et ce que c'est que de travailler au sein d'une administration.
Sabine, de votre côté, quels sont d'après vous les points essentiels du plan d'action ?
Alors les points, je pense que tous les points sont importants parce que ça traite de communication, d'usage, de mise à disposition de ressources et de compétences pour traiter tout ça. Donc le plan d'action couvre tous les champs. Je dirais que c'est pas forcément le plus important pour moi, mais ce qui m'occupe le plus, c'est le volet déjà évoqué par Bastien, qui est faire mieux connaître, utiliser. Et donc dans cet axe là, l'action est beaucoup à trouver et attirer vers le catalogue des solutions libres, plus que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, même si on a à peu près 10% des solutions qui sont libres, c'est déjà pas mal. D'en avoir encore plus pour donner plus de visibilité. Et de notre côté, puisque nous avons aussi mis en place, démarré il n'y a pas très très longtemps, le deuxième totem, qui est une plateforme réservée aux acteurs du secteur public pour échanger et avoir des retours d'expérience sur les solutions du catalogue, arriver à, en s'appuyant sur cette communauté, avec l'aide de Bastien sur des actions ciblées, des webinaires, des séminaires, des choses comme ça, de rediffuser la culture du libre, qui est une culture, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à tous les étages. Il faut de la ressource, il faut des moyens, il faut une autre façon de penser, une autre façon d'imaginer, une autre façon d'acheter aussi les solutions par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a toute une culture à mettre en place. Et nous, on a ce sujet du libre, on a aussi le sujet du cloud. On a communiqué sur des points que la DINUM veut mettre un petit peu en avant dans l'offre du secteur public pour qu'il y ait des choses à choisir. C'est important aussi de proposer au choix des outils qu'on a pu récupérer par des moyens divers et variés, dont celui-ci.
D'accord. Dans les points qu'a cité Bastien et qui ont été annoncés, il y a le renforcement des moyens humains. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes passé de 1 à 4. Ton rôle même a évolué, parce qu'en 2019, quand tu étais venu ici, si je me souviens bien, ton poste, c'était référent logiciel libre. Maintenant, tu es chef de pôle logiciel libre. Donc, il y a une évolution. Dans les annonces d'Amélie Monchalin, il y a également l'annonce on en a parlé tout à l'heure, elle indique qu'elle souhaitait pouvoir construire un dialogue partenarial et pérenne avec les écosystèmes du logiciel libre et créer pour cela une instance d'expertise et de mobilisation sur la mise en œuvre du plan. Donc, une instance de dialogue, conseil d'expertise composée à la fois d'administration et de structures de l'écosystème. Alors, je précise que l'April a été sollicité pour en faire partie et nous avons décidé de donner une chance à ce plan d'action. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le rôle de ce conseil d'expertise, Bastien Guéry?
Alors, le conseil d'expertise, il a deux cercles. C'est un cercle administration et un cercle écosystème. Le rôle, c'est de faire que des administrations qui ont des acteurs engagés dans le logiciel libre, parce qu'il n'y a pas que la DINUM évidemment, puissent échanger de l'information et du service entre eux. Si je prends l'exemple de l'Agence nationale de cohésion des territoires,
l'ANCT,
eh bien, ils seront dans ce conseil. Ils ont une connaissance du logiciel libre et des communs numériques. Ils ont été à la manœuvre quand il s'agit de répartir l'argent du plan de relance pour permettre à des collectivités d'acheter des solutions elles-mêmes sous licence libre, donc d'encourager la mutualisation en amont. C'était un plan de 30 millions. Et cette expertise-là, ce qu'ils ont appris à cette occasion-là, ils peuvent le repartager avec les autres administrations qui seront dans ce cercle-là. Je peux donner un deuxième exemple. Du côté de l'éducation nationale, il y a la direction du numérique éducatif qui a une expertise sur l'usage de serveurs sous licence libre depuis très longtemps, sur l'ouverture éventuellement de codes sources importants, qui a une deuxième expertise avec le recrutement d'Alexis Kaufmann sur les ressources éducatives libres et sur l'encouragement à soutenir les enseignants qui développent des logiciels libres pour l'éducation. Et bien ça, cette expertise-là, elle peut être reversée au pot commun administratif. Il y a un deuxième cercle écosystème. Pour les citer rapidement, on a l'association Adulact avec laquelle la DINUM a un partenariat historique, l'April, le Hub Open Source, le CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, l'association OW2, l'association Tosi, donc tout un ensemble de partenaires. On n'a pas d'entreprise.
Les derniers que tu as cités, c'est plutôt entreprise. Adulac, c'est une association d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres et de développement aussi dans l'administration.
Voilà, et on a aussi les fondations Mozilla et Eclipse. La fondation Eclipse est à migrer en Europe récemment. Ouais. Donc des gens qui ont beaucoup de projets à leur actif, beaucoup d'expérience, et cette expérience-là, on veut la mettre à profit. C'est aussi donc d'abord pour dialoguer, et ça c'est aussi pour faire passer des messages à cet écosystème qui comprenne mieux l'administration et qu'il cible mieux les offres. Je donne un exemple, on a besoin d'un annuaire des entreprises et de savoir mieux se repérer pour chaque entreprise du logiciel libre, les ENL, les entreprises du numérique libre, de connaître réellement leurs compétences sur tel et tel sujet. Le CNLL construit un tel annuaire et on discute avec eux pour mieux cibler cette offre-là et la faire connaître à l'ensemble de l'administration.
Par rapport aussi, je suppose, aux critères de l'administration.
Complètement. Voilà, pour entrer dans la même démarche que l'Adulacte a enclenchée en référençant aussi les prestataires en plus des solutions.
Je vais juste préciser qu'Alexis Kaufmann, dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'un des fondateurs de Framasoft, la célèbre association. Donc c'est aussi un libriste qui a intégré à une administration comme toi. Et on verra effectivement, je pense que pareil pour lui, on lui donne rendez-vous peut-être un peu plus tôt dans un an et peut-être qu'on le recevra justement pour savoir où il en est. Donc en tout cas, c'est très intéressant de voir des libristes qui sont dans l'administration. Tu venais parler des entreprises, on va parler aussi de la commande publique, parce que sinon je vois le temps qui passe et finalement on n'en parlera pas. La commande publique, c'est un des sujets qui enfin, très souvent oublié. Alors je crois de mémoire, dans la circulaire Héro, on n'en parle pas, le rapport Botorel n'en parle pas, la circulaire Castex n'en parle pas. Et pourtant c'est un point essentiel, la commande publique, au-delà de mettre la priorité normative du logiciel libre dans la commande publique, c'est comment effectivement, entre guillemets, mieux acheter du logiciel libre. Quelle est la problématique ? Est-ce que vous pouvez expliquer cette problématique de commande publique ?
Alors, moi là-dessus, on parlait tout à l'heure d'évaluer les résultats du plan d'action. J'espère que dans 3 ans, on aura des parlementaires qui se mobiliseront pour une mission d'information qui nous éclairera sur la répartition en dépenses de cette commande publique et qu'on voit combien de pourcentage est dépensé pour le logiciel libre, combien de pourcentage est dépensé pour le reste. Est-ce que ça augmente ? Est-ce que c'est des dépenses qui sont évaluées, reconduites ? Comment ça fonctionne ?
Petite précision, Isabelle Attard, quand elle était députée, avait sollicité un certain nombre de ministères, donc il y a des chiffres qui sont déjà connus, donc effectivement, ça serait bien de voir l'évolution de ces chiffres.
Voilà, et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra mesurer très simplement, bon, pas seulement en dépenses, hein, parce qu'il faut vraiment que ces dépenses puissent être justifiées et qu'on mesure l'impact en termes d'acculturation, d'adaptation des solutions. Mais je cite un exemple de problématique qu'on a. Aujourd'hui, les administrations peuvent passer par une centrale d'achat bien connue qui s'appelle l'UGAP pour acheter de la prestation en développement. Il se trouve que quand une administration achète à travers l'UGAP, donc cette centrale d'achat, elle n'a pas accès aujourd'hui aux conditions juridiques contractuelles qu'il y a entre cette centrale d'achat et le prestataire.
D'accord.
Ce qui nous amène à des situations absurdes où une administration peut acheter un site web statique sans avoir les clés pour le modifier par la suite. Parce que le prestataire dit, ben non, on vous a donné le livrable, mais on n'avait pas discuté de licence.
C'est-à-dire que les conditions de livraison du produit ne sont pas connues de l'administration.
Les conditions juridiques contractuelles entre la centrale d'achat le prestataire peuvent ne pas être connues.
D'accord.
Et si l'administration n'est pas extrêmement attentive à tout ça en amont, elle peut se retrouver, tout en étant de bonne volonté, elle peut se retrouver coincée. Et parfois même, quand le prestataire n'est pas de mauvaise volonté, hein, c'est pas toujours mal intentionné. C'est une remarque aussi que je fais par rapport aux gens qui sont rentrés dans le catalogue label. Vous trouvez partout des boîtes qui se disent open source en étant de très bonne volonté parce qu'elles veulent diffuser un état d'esprit, puis elles ne connaissent pas, elles ne sont pas expertes des licences libres, elles ne sont pas expertes de tout ça. Et c'était les corrections d'erreurs étaient autant des erreurs de manque de vérification de la licence que des erreurs de bonne foi de ces entreprises qui se disent juste open source parce que c'est cool. Donc l'achat c'est essentiel et les administrations qui achètent aujourd'hui sont en mesure de demander la propriété intellectuelle des livrables, des codes sources qu'elles font développer. Seulement elles y sont plus ou moins attentives en fonction de ce qu'elle prévoit d'en faire après. Une administration qui sait qu'elle va ouvrir un code source au moment de la création du projet VITAM, projet d'archivage électronique dirigé par Jean-Séverin Lair, eh bien évidemment, ces questions-là étaient au premier plan et juridiquement, la maturité était là pour poser les bonnes conditions.
Jean-Séverin Lair, qui était un des architectes de la circulaire Héro, si je me souviens bien, quand il
oui.
était, je ne sais plus dans quel ministère, peut-être la culture.
Oui.
Un historique aussi. J'ai peut-être une petite question sur la commande publique. Est-ce que vous avez évoqué le cas des entreprises, des grosses entreprises, on va dire de sociétés de services, qui répondent à des appels d'offres sur des produits, comme par exemple, prenons QGIS, qui est un système d'information géographique libre. Ces entreprises, en fait, ne font aucune valeur ajoutée sur le logiciel. À côté de ça, il y a un certain nombre de personnes indépendantes ou de petites structures qui contribuent à QGIS et qui sont quelque part, en fait, un peu exclues de l'appel d'offres par leur petite taille. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez identifié ou pas du tout pour l'instant ?
On l'a non seulement identifié, mais en plus, on a vécu le fait que pour le marché interministériel de logiciels libres, qui est un marché qui permet aux administrations de faire des remontées de bugs et d'avoir des correctifs de bugs, qui lui permet aussi de faire des développements, et bien le titulaire du marché de support est une grosse entreprise qui a construit un groupement autour d'elle pour s'assurer de l'expertise de ces petites entreprises.
D'accord.
Donc l'administration est attentive justement à cibler la la bonne expertise au bon endroit et à ne pas simplement réagir à des flyers publicitaires.
Mario, il y a des commentaires sur le salon web, donc Mario Dil, qui, alors c'est un commentaire qui est à la fois positif et négatif, je vais quand même le transmettre. Donc avec du personnel d'une telle qualité, donc Mario Dil parle de vous deux, il était grand temps qu'on leur change de patron. Donc voilà, je ne vous demanderai pas évidemment de réagir sur ce sujet-là. Mario Dil fait simplement référence au fait que Nadi Bouhanna a annoncé son départ de la Dinoum en janvier 2022, la veille de la publication d'un article du Monde qui relatait un certain nombre de problèmes de management avec des burn-out, des dépressions, etc. Nadi Bouhanna conteste formellement ces accusations, mais en tout cas, il partira. Je ne vous demanderai pas non plus de réagir là-dessus. Et je fais un petit coucou à la chargée de com de la Dinoum, hein, voilà, vu qu'on a parlé de ce sujet avant. Mais on ne va pas en rentrer plus dans les détails. Par contre, il ne nous reste même pas 5-6 minutes, peut-être 10 maximum, grand max, hein, enfin 5-6 minutes même. Juste avant la phase de conclusion, peut-être un point, parce que vous vouliez aborder tout à l'heure la partie justement ressources humaines, le recrutement, les talents. Vous avez une offre de poste actuellement ouverte, c'est ça?
Oui.
Alors, qui le fait, Sabine ou Bastien?
Ah, mais c'est Sébastien qui cherche.
Alors, donc, qu'est-ce que tu cherches, Bastien?
Alors, on est deux aujourd'hui. Je suis accompagné par ma collègue Agathe Boucher sur la communication et l'événementiel. Je la remercie pour tout son investissement. On a un développeur, Joseph Garonne, qui nous rejoint en janvier et qui se consacrera à plein temps au catalogue de logiciels libres. Et dans les jours qui viennent, on va publier une fiche de poste pour chercher une ou un chargé d'accompagnement des communautés et des contributions. Quelqu'un qui aidera à répondre aux administrations quand elles veulent que leur projet, qui est simplement à source ouverte pour l'instant, devienne un vrai projet libre, capable de recevoir des contributions, et aussi pour porter tous les aspects Blue Hat, à savoir valorisation des contributions du secteur public à l'écosystème du libre. On en parlera aussi lors d'un événement ce jeudi, c'est le forum de l'emploi tech de l'État, et c'est ouvert à tous, vous pouvez vous renseigner, on sera nous dispo entre 15h et 16h pour répondre aux questions sur cette fiche de poste, mais sur l'ensemble du projet libre. Un petit mot pour réagir à la remarque de Mario Dil. Je pense que c'est difficile d'imaginer, quand on ne vit pas dans une administration, ce qui a pu être la mobilisation en 2020, au moment du premier confinement. Et que cette mobilisation, elle a vraiment construit des collectifs. Et que la qualité des agents, on se compare pas entre nous et on a tous, il faut un village pour faire l'éducation d'un enfant africain, il faut un collectif aussi large que l'écosystème de la Dinoum, plus les gens de Betagouv, plus nos partenaires, pour soutenir les efforts de chacun. Donc autour du logiciel libre, il y a Etalab, il y a Laure Lucchesi qui est là depuis plus de 8 ans et qui porte
la directrice d'Etalab.
La directrice d'Etalab qui porte l'ouverture de la donnée. Il y a toutes les équipes de Datago. Donc tout ça, il y a du terreau et c'est ça cette continuité qu'on veut prolonger.
Alors, avant de poser la question finale, d'ailleurs, c'est un avis totalement personnel. Comme vous cherchez une nouvelle patronne ou un nouveau patron, je dirais aux gens du dessus, c'est pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs les talents. Je pense personnellement qu'un signal fort serait fait si on choisissait, si Laure Lucchesi, actuelle directrice d'Etalab, était nommée à la tête de la Dinoum. Mais c'est un point de vue totalement personnel. Alors, il y a nos intervenants et intervenantes de la prochaine sujet qui viennent d'arriver. Je précise à Étienne qu'on va sans doute zapper la pause musicale, mais attendez, vous n'êtes pas encore totalement parti. Une petite question que Marie-Dille a posée tout à l'heure, réponse rapide, et ensuite la dernière question. Petite question rapide, Marie-Dille demandait, est-ce que vous avez une personne référente dans chaque ministère? Référente logiciel libre, je sous-entends.
Alors j'adorerais répondre à cette question en plus de 2 minutes. Très rapidement.
Vas-y.
La circulaire Castex, le logiciel libre, ce n'est qu'un bout. C'est une circulaire sur la donnée publique. Donc tout le volet open data est largement porté et on avance aussi sur l'ouverture des codes. Donc oui, il y a des administrateurs ministériels des données, des algorithmes et des codes sources dans chaque ministère. Ces administrateurs, ils sont nommés, vous en avez la liste sur Datagouv, et ils portent le sujet des algorithmes publics et des codes sources. Donc ils trouvent des référents techniques chez eux. Sur le volet de l'utilisation, oui, c'est notre ambition d'avoir des points de contact et des référents, voire des administrations qui avancent sur des politiques d'utilisation des logiciels libres, qui s'engagent. Et ça, ce sera visible dès l'année prochaine avec la publication de politiques d'utilisation de logiciels libres, et c'est très important parce qu'on a juste vocation à distiller un état d'esprit, à accompagner, mais chaque ministère doit construire sa politique.
Ok, je relève juste une dernière question pour Sabine avant la question finale, question avec réponse courte si possible. Donc c'est Étienne qui demande comment a évolué votre regard sur le libre au contact de Bastien par exemple. Question compliquée, réponse courte si possible.
Rien de personnel. Enfin, mon regard n'a pas forcément évolué, mais c'est vrai que quand on côtoie quelqu'un de vraiment passionné, investi, on a forcément le regard qui évolue. Moi, j'ai pas d'avis pour ou contre le libre. Je pense même plutôt que c'est une bonne idée. Après, il y a énormément de choses à changer. C'est ce qu'on a évoqué, hein, les comportements, les organisations, les méthodes, la commande publique, etc., etc. Moi, je dirais juste qu'il faut vraiment, en vouloir pour faire bouger les choses. Et je pense que Bastien, pour le coup, c'est la bonne personne. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc sur la DINUM. Bon, en plus de ce que Bastien a dit, l'esprit collectif qui existe, on vient quand même sur l'année qui s'écoule de mettre en place et porté par pas mal de collègues de la DINUM le plan de relance. Ça a été mis en place en un temps record. Entre l'annonce qui a été faite et la mise en place et la première distribution de subventions, ça c'est quand même quelque chose qui se fait pas tout à fait n'importe où, quoi. Voilà, ça se fait à la DINUM, mais je pense que c'est quand même important et c'est du collectif.
Ok. Alors dernière question, en moins de deux minutes chacun et chacune si possible, quels sont les éléments clés à retenir que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent? Bastien Guéry.
Un nouvel élément que j'ai oublié de mentionner, mais qui est extrêmement important. On a le plan national de la science ouverte, qui est sorti l'année dernière, et qui comporte un volet sur les codes sources. Ça veut dire que les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont invités à publier de plus en plus leurs codes sources pour rendre la recherche plus reproductible. Et cette action-là, elle s'inscrit aussi dans les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour ouvrir les codes sources de la recherche, et aussi parce que ce ministère est volontaire sur le sujet pour utiliser plus de logiciels libres et s'appuyer sur le catalogue qu'on met en place.
Ok.
Et l'État Lab organise avec le Comité pour la science ouverte en janvier un séminaire en trois matinées sur ouvrir les codes sources de la recherche et surtout valoriser les codes sources de la recherche. D'accord. C'est-à-dire comment construire des entreprises sans refermer la licence derrière.
Ok. Sabine, le mot de conclusion?
Oui, alors moi j'ai moins de deux minutes, donc c'est pas grave, je vais le faire. Moi je profite de l'occasion pour encourager tous ceux qui portent des solutions libres de venir se référencer dans le catalogue, qui est un moyen où les solutions libres sont présentées de façon complètement identique à des solutions propriétaires, et d'utiliser cet outil et de vous l'approprier, sachant que on va créer à partir de ça une communauté d'agents publics sur lesquels on va pouvoir travailler de façon assez précise, par exemple pour obtenir les chiffres évoqués précédemment, hein, sur ces populations de 200-300 agents publics. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans l'année comme solution? Est-ce que c'était du libre, pas du libre? Quel budget associé? Alors on va pouvoir avoir une communauté de gens dont on va pouvoir examiner de façon relativement fine leur façon d'acheter et de choisir du libre et pas du libre, pourquoi, comment, etc. Voilà.
D'accord.
Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité.
Eh bien, c'est noté. Donc, merci à Sabine Guillaume et Bastien Guéry de la DINUM, donc de la Direction ministérielle du numérique. Marie-Udile vous donne rendez-vous en 2025. Moi, je vous donne rendez-vous un peu plus tôt pour faire un point. Je précise. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci pour l'invitation.
Je vous précise qu'on ne va pas diffuser de pause musicale, mais par contre, tu peux envoyer le petit jingle de transition, Étienne. Alors donc on va passer au sujet suivant. Alors, exceptionnellement on fait pas de pause musicale, donc j'invite les deux personnes à s'installer donc aux deux places là, et puis à Sabine et Bastien éventuellement d'aller dans le canapé pour profiter après de la petite collation qui est prévue. Donc je vois là, il y a Isabelle et Brice qui s'installent pour le sujet suivant. Alors donc c'est donc Chronique d'Antanac. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entrée sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le thème du jour, le garage numérique, qui accompagne les personnes habitantes et les associations du 20e arrondissement de Paris pour une vie numérique inclusive et solidaire. Et donc Isabelle a convié Brice et je vous laisse... Isabelle, je te laisse la parole.
Merci Fred, bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Oui, tout à fait, alors j'avais envie aujourd'hui d'ouvrir un peu cette petite chronique de 10 minutes d'Antanac à une autre structure qu'on commence à bien connaître là maintenant. Et je vais laisser la parole à Brice pour qu'il expose un peu, mais parce qu'on est vraiment en phase sur plein de sujets, notamment l'utilisation des systèmes sous GNU Linux, mais aussi l'approche avec les personnes, etc. Vas-y Brice, raconte-nous voilà. Le garage numérique, à Paris également, mais dans le 20e.
Ouais, exactement. Le garage, ça fait 10 ans que l'association est active sur Paris, quartier de la Banane, des Amandiers, entre Ménilmontant et Père-Lachaise. Effectivement, on a pas mal de points communs avec vous, Antanac, puisque une des activités historiques porte sur la collecte, le reconditionnement et la redistribution d'ordinateurs pour que, autant que possible, les familles du quartier qui auraient besoin de s'équiper puissent le faire. Et évidemment, on utilise et on installe autant que possible des distros Linux sur les postes.
Autant que possible,
autant que possible, parce qu'en fait, on fait tourner aussi un atelier de réparation. Donc, les gens viennent avec leurs bécanes telles qu'elles sont, pour pas dire souvent des Windows 7 ou 10, c'est un peu à bout de souffle. Et bon, on essaie d'expliquer, de convertir, on sensibilise. Et puis, bon, y a des fois où, les gens s'y retrouvent et acceptent de basculer sur une Debian ou autre. D'autres fois où c'est plus compliqué, et puis on comprend, donc voilà, on fait pas 100% GNU Linux, mais on essaie en tout cas.
Ça, en tout cas, vous n'installez pas des systèmes d'exploitation sous Windows.
Le but étant que les... dans quel cas, il y a quelques personnes dans le quartier qui peuvent faire du graphisme, c'est un peu long de basculer sous GIMP ou autre, et qui ont besoin de leur suite Adobe. Nous, le but, c'est qu'on rende service, et que les gens,
Du coup, tu fais des double boot dans ce cas-là, comme nous, ou tu fais
Non, pas forcément. Non, okay. Ça nous arrive.
Ouais. Pardon.
Vous allez très vite. Qu'est-ce que c'est qu'un double boot ?
Un double boot, voilà. Parce que nous, à Antanac, ce qu'on a pris comme principe, c'est aucun ordinateur s'il est passé par chez nous, jamais il n'aura pas un morceau de système libre dessus. Donc, double boot, ça veut dire qu'on divise en deux de manière logique. On ne découpe pas le disque, mais de manière logique, on fait des partitions avec, quand on démarre la machine, soit on peut la démarrer sous le système GNU Linux. Peu importe, Ubuntu, Linux Mint, enfin ce qu'on met, Debian, etc. Et sinon, de l'autre côté, on peut le démarrer sur majoritairement du Windows.
On va juste préciser que techniquement, c'est un menu qui s'affiche et on choisit. Voilà.
Voilà, c'est ça.
Pour la personne utilisatrice.
Pour la personne utilisatrice. Ce qu'on pousse les gens à faire, ça ne veut pas dire qu'ils le font après tout le temps, mais ce qu'on pousse les gens à faire, c'est de n'utiliser la partie Windows dans ce cas-là que, comme tu le dis, pour j'ai besoin absolument de tel outil et j'ai pas trouvé l'équivalent dans le monde du libre, ou plus exactement. Exactement, souvent, je suis trop fainéant pour changer mes habitudes et passer sur un logiciel libre. Non, puis il y a aussi des choses qui sont réellement pas exactement pareilles, mais on sait pourquoi. Donc du coup, on leur suggère ça, de n'utiliser cette partition-là que pour des choses précises, mais que pour tout le reste de ce qu'ils ont à faire, ils restent sur le système d'exploitation libre. Voilà.
J'entends bien, et c'est là où on retrouve un point commun, c'est qu'on passe finalement autant de temps devant les ordinateurs qu'à discuter avec les gens pour expliquer aussi bien l'utilisation même que les enjeux qu'il y a derrière ces outils-là. Je sais qu'on l'a en commun.
Une différence qui est quand même de taille, c'est que vous avez réussi à monter un modèle économique sur cette activité, là où nous, on est uniquement ou quasi uniquement des gens bénévoles. Toutes les personnes qui viennent à Antanac sont des personnes bénévoles. Il y a simplement les permanences d'écrivains numériques publics pour lesquelles nous avons quelques vacations payées, pas assez payées, mais en tout cas, on arrive à les rémunérer un petit peu, parce que là, on a estimé qu'il y avait des obligations d'horaire, d'être là, de répondre, de confidentialité sur les données, etc. etc. Donc là, on rémunère les gens, mais toutes les autres personnes sont bénévoles. Je crois que vous avez un modèle économique, n'est-ce pas ?
On a un modèle économique qui probablement a consolidé. on peut dire qu'on a un modèle économique dans la mesure où on est encore en capacité de salarier quelques personnes, effectivement. Et on a à côté de ça beaucoup de jeunes. On travaille beaucoup avec les jeunes du quartier. En fait, on est un espace où déjà ouvert en continu tous les jours de la semaine, où chacun peut aller et venir, rentrer, que ce soit pour demander des nouvelles ou voilà, se faire dépanner ou aider dans l'usage de son ordi.
Ouais, mais ça du coup c'est une vraie différence. Nous par exemple, on est fermé le mardi et le vendredi parce que ben on a chacune d'autres activités que ouais, peut-être vrai. Éventuellement on va bosser un peu sur d'autres choses ou bien on fait des trucs. On peut pas se permettre nous d'être ouverts tout le temps. Et alors par contre, tu parlais d'accompagnement de jeunes, je crois que vous avez aussi effectivement toutes des actions hyper précises avec des jeunes qui viennent pendant une durée un peu importante auprès de vous.
Ouais, non, on a structuré un parcours. Alors historiquement le garage a toujours accueilli en stage, en service civique ou quel que soit le format hein, des jeunes du quartier pour qu'ils puissent s'essayer à l'informatique, monter en compétences autant que possible. Et on est en train encore là de structurer en fait un parcours de 3 à 4 semaines où, alors ça peut être dans le cadre de stages hein, pour des jeunes qui seraient en formation ou juste conventionnés par la mission locale ou autre, le but étant de découvrir un certain nombre de métiers du numérique. Nous on a évidemment un focus on va dire sur la maintenance et la réparation. Oui. On va faire un peu plus de ça au garage, mais ça peut permettre essayer de développer un mode sous Mindtest, de s'initier à Python, d'apprendre à gérer un agenda, de savoir faire des emails de façon professionnelle. Voilà, un parcours qui permet d'en ressortir normalement en ayant un peu monté en compétences en informatique et en se disant ah oui ok, je vais peut-être pouvoir en faire mon métier. Et là on s'accorde du temps pour identifier des formations, savoir alors c'est quoi, c'est le dev, c'est la maintenance, mais c'est quoi, c'est plutôt de l'atelier du hardware, un atelier de réparation par exemple, ou plutôt de la maintenance de l'infogérance pour être technicien support. Voilà, le but c'est de sortir au bout de ces 3-4 semaines et que le jeune sorte au bout de ces 3-4 semaines avec les idées un peu plus
ok. Et ça c'est une activité qui reçoit il y a des ressources de subvention pour tenir ça ou comment vous faites là-dessus?
Oui, historiquement, ouais. Il y a la ville, il y a l'État qui nous soutient, qui nous finance pour l'accompagnement des jeunes. On a depuis la fin de l'automne, on va dire, un autre partenaire qui est une entreprise d'insertion qui fait de l'infogérance, qui s'appelle Réseau Social, où on a co-construit en fait ce parcours ensemble. Et une des possibilités de sortie du parcours après le garage pour des jeunes qui ont confirmé un projet professionnel autour de la maintenance de l'infogérance, c'est d'intégrer en fait Réseau Social sous la forme d'un contrat d'insertion pour être technicien support, technicien maintenance et préparer en parallèle du coup un titre professionnel de TAI, technicien assistance informatique. Donc voilà, c'est un des débouchés possibles, mais le parcours peut servir aussi à quelqu'un pour se dire oulala, en fait non, l'informatique, voilà ce que vous m'avez fait faire sous la ligne de commande, vous m'avez cassé la tête les amis, moi je veux pas du tout faire ça, et c'est très bien, et c'est aussi une sortie positive. Le but c'est d'avancer quoi.
Super, je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps Fred, mais
Deux, trois minutes. Juste une petite question.
Vas-y.
Vous parlez d'ordinateur. Est-ce que vous faites aussi les téléphones mobiles?
Alors, on l'a fait. C'est un peu compliqué parce que il y avait notamment un jeune qui s'occupait de ça, qui était en filière microélectronique il est plus dans le garage. Alors, il habite toujours dans le coin. On est plus à réorienter. On préfère pas gérer. On n'a pas trop les compétences. On n'a jamais, capitalisé sur les compétences autour de la répa de téléphone ou de des googlisations, des androidisations de téléphone. On n'en est pas encore là. On a mis beaucoup d'efforts dans la montée en compétences autour de l'admin système, d'héberger nous-mêmes notre instance Nextcloud, notre Odoo, des choses comme ça. Et c'est plutôt ces compétences-là qui se diffusent en fait dans la
juste Isabelle avant
nous en TANAC sur les téléphones, on a ce qu'on arrive à faire, c'est à monter des ateliers pour effectivement dégoogliser les et mettre des systèmes, on avait parlé ici plusieurs fois hein, sur les téléphones, mais pas sur la partie réparation parce que ça de toute façon c'est vraiment un autre job quoi. S'il me reste juste une minute,
vas-y.
Je voulais juste reconfirmer parce qu'on avait j'en ai parlé je crois ici, je sais plus quand, mais Brice et le garage numérique font partie des premiers fondateurs, fondatrices avec nous du REFIS, donc le réseau francilien de réemploi pour une informatique solidaire. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant, et moi je me réjouis de la présence dans le 20e là à côté de nous, du garage numérique, parce que donc c'est aussi ce qui nous permet de mutualiser à la fois donc là pour le moment avec le REFIS des collectes éventuelles, mais aussi par la suite d'autres projets comme celui dont on parlait tout à l'heure dehors, qui est sur la question de comment est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec cette affaire de certification pour l'écrasement des données, ou des choses comme ça. Quoi.
Donc, tu l'as parlé la dernière fois et voilà. J'ai envoyé le courrier à l'Annecy, je n'ai pas eu de retour.
Mais alors j'ai eu un premier retour, j'en parlerai une autre fois parce que ça va être trop lent sinon. Oui. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant aussi et c'est pour ça que c'est bien. Puis je pense que je réinviterai Brice une autre fois pour sur d'autres sujets. Mais
il y a un dernier point, l'activité du garage qui est très structurelle aussi pour nous et importante, c'est la formation qu'on a investi depuis 2 à 3 ans avec un partenariat avec le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, où on anime une spécialité de formation de technicien DevOps, donc une sorte de technicien de maintenance, mais avec des notions autour de guide, de Python, de la dockerisation, bon, un niveau bac plus 1, donc tranquille, mais quand même sensibilisé à ça. Donc, et voilà, ça fait un super groupe, ça fait 3 ans maintenant qui se renouvelle. Voilà, voilà. Ouais, l'équipement, ça, l'accompagnement, et puis cet aspect de formation, on est plus complète, hein, du garage.
Génial, merci.
Super. Juste un petit rappel, enfin peut-être une information, legaragenumérique.fr, le site web, c'est dans le 20e, Antanac, c'est antanac.com, et c'est dans le 18e, 22 rue Bernard, 18 rue Bernard Dimet, donc juste à côté de la radio. Donc c'était la chronique d'Antanac, donc merci Isabelle Carrère et Brice aujourd'hui. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors rapidement quelques annonces, oui, parce qu'il reste peu de temps. Les fêtes se rapprochent. Alors parmi les cadeaux que vous pouvez faire aujourd'hui, vous pouvez faire des petits dons par exemple, ou même des gros dons à vos projets de logiciels libres préférés, votre association de défense de la vie privée préférée, ou toute autre association du même genre. C'est important. Si vous souhaitez faire d'autres cadeaux, vous allez sur le site enventelibre.org. Vous pouvez y trouver des mugs, des vêtements, des t-shirts, sweatshirts, chaussettes, gourdes, dons avec des associations. J'ai un superbe sweatshirt Debian. On parlait tout à l'heure de la distribution libre Debian. Vous pouvez aller aussi sur le site de Captain Artiste Libre, kptn.org, qui fait de la musique marrante française. Vous pouvez acheter son CD, mais vous pouvez aussi télécharger librement sa musique et lui faire un petit don si vous voulez. Vous pouvez aussi prendre un abonnement, par exemple, à un journal ou à un magazine qui traite d'informatique, de technologie, de politique, comme nextimpact.com, avec les excellents articles de Marc Ress. Et quand vous êtes abonné, en plus, vous n'avez plus de traceurs, vous n'avez plus de pub, etc. Et dernière annonce, ma collègue Isabelle Lavani va animer ce jeudi 16 décembre à 17h30 la réunion du groupe de travail sensible de l'April. Toutes les informations sont sur le site de l'agenda du libre. Alors, notre émission se termine. C'était la dernière de l'année. Donc, je remercie d'abord les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Avani, Aurel, Sabine Guillaume, Bastien Guéry, Isabelle Carrère, Brice. L'émission a été réalisée avec son talent habituel par mon collègue Étienne Gonu. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, nous apportons un soin particulier à leur traitement avant leur mise en ligne et votre confort d'écoute en sera amélioré. Merci donc à l'équipe qui s'occupe toute l'année de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. J'en profite pour remercier également Adrien Bourmeau qui a aidé Quentin dans cette tâche et également à la réalisation de certaines émissions avant de partir vers de nouvelles aventures. Merci également à Lélise Daniel qui a mis en voie nos différents jingles. Ah oui, les deux modifications qu'il y avait sur le jingle. On a juste changé le site web april.org par libreavoue.org et Lélise a réenregistré la voix. Un grand merci également à l'âme et au cœur de la radio Cause Commune, à savoir Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui nous permet de participer à cette formidable aventure. Au cours de l'année, nous avons eu aussi l'occasion de recevoir l'aide de Stéphane Dujardin, de l'équipe de la radio, notamment lorsque nous avions quelques problèmes techniques, ce qui est arrivé. Donc un grand merci Stéphane. Enfin, merci à vous, sans qui notre émission n'aurait aucun intérêt. Nous avons des auditrices et auditeurs formidables qui, en plus de temps en temps, nous font des retours qui nous font chaud au cœur. Continuez. Encore merci. Vous retrouverez sur le site libreavoue.org toutes les références utiles et les moyens de nous contacter. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Alors juste, on nous reste un peu de temps. Donc de nouvelles émissions ont été intégrées à la grille de programme de la radio, notamment sur la thématique du travail, la vulgarisation scientifique, les pratiques somatiques, la poésie, la grande histoire en petites histoires, un rendez-vous cinéma, une émission sur le métal, la musique, sur les parcours de vie, sur les initiatives vertueuses et évidemment les émissions habituelles telles que Cyberculture consacrée à la compréhension et l'appropriation de la culture numérique, l'émission d'Isabelle Carrère d'Antanac sur l'habitat, une émission pour que le vélo devienne une évidence ou encore une émission sur l'histoire. Et bien entendu, les rendez-vous musicaux habituels de la radio. Peut-être d'ailleurs qu'on se donne rendez-vous le mercredi 5 janvier pour une musicale avec mon camarade Mehdi. C'est à suivre sur le site causecommune.fm. C'était la dernière émission de l'année. Nous reprendrons en direct au mardi 11 janvier 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le thème « Contribuer au libre ». Malgré le contexte morose, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une belle fête de fin d'année, de bonnes fêtes. Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons également une belle année 2022, que la nouvelle année soit plus sereine et plus douce à tout point de vue pour vous-même et pour vos proches. On se retrouve en direct le mardi 11 janvier 2022 et d'ici là, portez-vous bien. We'll be right back.